C'est l'heure solennelle où l'homme, Dieu, descendit jusqu'à nous pour effacer la tache originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple, à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois né dans une humble crèche, puissant du jour fier de votre grandeur. À votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche, courbez vos fronts devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère qui n'était un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui dira notre reconnaissance ? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre, qu'il meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Dans le silence de la nuit est né notre Sauveur il y a 2000 ans. Dans le silence de la nuit, parce que finalement personne n'a prêté attention. Sans bruit, sans fanfare, comme il a été dit tout à l'heure. Notre Seigneur est venu. Et quand on pense, on peut avoir le diapositive, si c'est possible. Ouais. Hop. Ça marche pas là. Ça marche là et ça marche pas là. Bon, ben, c'est pas grave. Quand on pense au premier Noël, faudrait. Ça y est, voilà. Quand on pense au premier Noël, on pense calme, sérénité, absence d'inquiétude. N'est-ce pas ? On accroche des boules, on s'est marqué peace dessus, un P. Et on pense. Un moment de paix. C'est vrai ? Voilà la belle image. Hein ? Une image d'Épinal, on dit voilà, les animaux sont là. Mais vous voyez, c'est intéressant, sur cette image, il n'y a personne autour. Il n'y a que les animaux pour accueillir Jésus-Christ. Alors, bien sûr, et il nous a été raconté dimanche, les bergers ont été avertis. Une chorale. Et on les a vus, les choristes. Hein. Ils ont chanté dimanche. Je ne sais pas si c'était les mêmes, il y a 2000 ans. Même les mages. Un peu plus tard. Hein. Les mages, ce n'est pas exactement Noël. Hein. Ils sont venus un peu plus tard, puisque c'était déjà un enfant. Mais ils ont suivi l'étoile. Et puis, voilà, cette image, elle n'est pas très très claire, mais là, on rassemble sur certaines images les mages, les bergers, les anges et Marie. Et voilà. Hein, les bergers d'un côté, les mages de l'autre. Et finalement, l'histoire de Noël, on est un peu confus parce que c'est rempli de traditions. On y colle un sapin, on y colle voilà, les boules de Noël. Mais dans le silence de la nuit, est né notre Sauveur. Mais en fait, cette paix, cette trêve, ce n'est qu'une trêve. Une trêve, c'est un arrêt momentané. C'est-à-dire qu'une paix qu'on signe, elle dure. Une paix qu'on ne signe pas, elle n'est pas faite pour durer. Dans le contexte, 3 siècles environ avant Jésus-Christ, le monde grec a pris le pas sur le monde perse. Et le monde grec, avec toutes ses philosophies, avec tous ses faux dieux, a commencé à envahir le monde romain, à changer la pensée, à rentrer des philosophies nouvelles, à même changer les traditions des peuples, même les traditions des Juifs. J'ai lu cette histoire cette semaine en 1914, 6 mois environ après le début de la guerre. Alors que les hommes étaient dans les tranchées, se tiraient dessus. Alors que il n'y avait pas d'espoir et on commençait à compter les morts tombés, les blessés étaient là agonisants. D'un seul coup, les soldats français ont entendu les Allemands chanter des cantiques de Noël. Et ils ont commencé à s'interroger en disant « C'est une ruse ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'était le 25 décembre. Et de l'autre côté, l'ennemi chantait les cantiques de Noël. Et finalement, un soldat allemand est sorti de ses tranchées avec un drapeau en disant « Venez ici, célébrons Noël. » Au milieu de la guerre. Et en fait, les soldats français, les soldats allemands, des premières lignes, sont montés sur un terrain qu'on appelle un no man's land, un endroit où il n'y avait rien. Et finalement, on chantait des cantiques de Noël, on échangeait des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est ce qu'ils avaient en réserve, hein. La nourriture, du tabac, de l'alcool. Il a même dit qu'ils ont même joué au foot ensemble. Mais quand les autorités ont commencé à entendre qu'on pacifiait sur le terrain, on a dit « ça ne peut pas durer ». Alors le 26 décembre, on a renvoyé tout le monde dans les tranchées. Et on a repris la guerre. Qui fera environ 19 millions de morts. Ça, c'est une trêve. C'est ce qu'on appelle une trêve. Le monde grec envahissait. Le monde romain, l'Empire, Jules César, contrôle le monde. Israël aussi compris. Il collecte les taxes, impose des lois, par des lois et souvent par force. La nation juive n'est plus autonome. D'un côté la philosophie, de l'autre côté la religion, la tradition, la force. C'est dans ce contexte. C'est dans ce contexte que Jésus est venu. Et on l'a vu dans la pièce, n'est-ce pas ? On connaît des petits morceaux comme ça, mais on a un peu de mal à les réconcilier et à imaginer notre Seigneur venir. Là, dans une crèche ? Parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôtellerie ? Vous savez, on aimerait refaire l'histoire. Vous savez, il y a un film que je n'aime pas regarder, parce que je l'ai vu déjà souvent quand j'étais petit, c'est le Titanic. Parce qu'il coule à la fin. Et moi, je rêve d'un film où finalement, voilà, on bouche les trous et finalement, on refait flotter le Titanic. Ça serait un vrai film, ça serait un péplum, on appellerait ça. Mais on ne peut pas refaire l'histoire, le Titanic, il est coulé. Et finalement, Jésus va mourir. Et on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas ouvrir un 5 étoiles pour Jésus. Il fallait qu'il vienne dans ce monde où tout était cadenassé, où finalement la religion n'intéressait pas. Alors, regardons les religieux de l'époque. On n'en a pas parlé dans la pièce, pas trop. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens, chacun défend sa tradition. Sa religion, sa pratique de vie. Oh, tu devrais faire comme ça, mais non, faudrait faire comme ça. Et puis, il ne faut pas manger de ceci. Et puis, si, il faudrait faire ceci. Finalement, les religieux eux-mêmes, sont divisés. C'est le contexte de la venue de Jésus. Même ceux qui sont censés l'attendre ne sont même pas unis entre eux. Ils ont les textes, ils ont les prophètes. Et finalement, ils ne sont pas unis. Quel bazar ! Et c'est là qu'on se dit, mais c'est tellement important de comprendre pourquoi Jésus est venu. Et pourquoi finalement, le mot paix, a toute sa force. Parce que la paix, elle ne peut pas venir dans un monde calme. Elle ne peut pas venir dans un monde qui brille. Mais elle ne peut venir que dans les ténèbres. Que là, on en a besoin. Là où finalement, le SOS. Sauve mon âme, c'est ça que ça veut dire SOS. ces vassaux. Même les religieux ne remplissent pas leur travail. Division, crainte, esclavage, faux docteurs, incertitude. Voilà à quoi le ministre de la qualité de la vie de l'époque faisait apparence. Alors, finalement, il va y avoir un décret. Et ça, on en a parlé. Il va y avoir un décret. Dans Luc 2,1, il est dit, en ce temps-là, apparut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On le connaît le texte, hein ? Mais on va s'arrêter quelques instants. Tout d'abord, ce n'est pas une surprise. Et ça nous a été rappelé la semaine dernière, 700 ans avant. Michée 5,2 avait dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Il ne pouvait pas naître à Nazareth. Même s'il va y revenir, il va passer beaucoup de temps à Nazareth. Parce qu'on va l'appeler Jésus le Nazaréen. Mais il fallait qu'il naisse à Bethléem. Et c'est intéressant que Dieu a utilisé un décret. Mais vous vous rendez compte, on va voir tout à l'heure, quelle est la conséquence. Chaque famille doit mettre sa vie de côté, tout arrêter. Et se déplacer pour aller dans la ville de naissance. Imaginez si aujourd'hui, il nous était demandé à chacun d'aller dans notre ville de naissance pour vérifier qu'on est bien inscrit. Ils emmènent leurs enfants et vont dans la ville de naissance. Mais regardons quelque chose. Pour Joseph et Marie, il y avait entre 130 et 150 kilomètres. Les spécialistes ne sont pas vraiment d'accord. Il n'y avait pas vraiment des routes. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas des routes comme nous. Il y avait des routes romaines vers les grands axes, qui étaient toutes droites d'ailleurs. C'est pour que l'armée rentre. Hein. Et puis, dans les petites villes, petits villages, bah, c'était... voilà. Et Bethléem, c'était pas la ville principale et il n'y avait pas d'autoroute à la sortie. 150 kilomètres. Et en plus, Bethléem avait cette particularité d'être à 750 mètres d'altitude. Donc d'avoir une jolie pente à la fin. Mais regardez bien. Marie est enceinte. Et en plus, elle est en fin de grossesse. Parce que le texte plus tard, on l'a vu tout à l'heure, a dit, pendant qu'ils étaient là, Marie allait accoucher. Donc, on est à 8 mois et demi de grossesse, 9 mois de grossesse. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas de taxi. Nos taxis, ici, ne pourraient pas y aller. Il n'y aurait pas de VTC non plus. Ils y vont à pied. De magnifiques images montrent Marie et Joseph montés sur un ânon. Mais j'imagine mal que notre frère Joseph, le père de Jésus, ait eu un âne même. C'était pas son métier. Donc vous imaginez, ils y vont à pied. J'ai marqué là, pour vous donner une idée, c'est Paris-Reims, Paris-Orléans, Paris-Rouen, mais à pied. Et on estime environ à 4 jours. La distance à pied. 4 jours. Les gens faisaient environ 30 kilomètres par jour à pied. Et là, on est avec une femme enceinte. Donc, présume, ne va pas non plus en courant. Et que Joseph, il ne devait pas lui dire, bon, dis donc, Marie, ça ferme à 6 heures, hein. finalement, à l'arrivée, naissance à Bethléem en Judée, au jour d'Hérode le roi. Des astrologues venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est celui qui est né le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile quand nous étions dans l'Est, nous sommes venus lui rendre hommage. » En apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et rassemblant tous les prêtres en chef et scribes du peuple, il se mit à leur demander où était le Christ. Les autorités savaient où était né le Christ. Mais finalement, on avait ignoré, mis de côté la nouvelle. Priant que ça n'arrive pas. C'est intéressant, des fois, vous avez une nouvelle, elle vous revient dans la tête, et puis vous dites, non, je ne m'occupe pas de ça aujourd'hui. Non. Vous savez, il est dit que pour le retour de Christ, il sera pareil. On dira paix sur la terre, tout va bien. Et puis, le retour du Seigneur sera comme un voleur. Et la venue de Jésus a été de la même façon. Les religieux savaient. Le roi Hérode, lui, ne savait rien du tout. Puisqu'il fait venir, et l'autre fois, il a fait venir Pierre et moi-même, pour savoir, heureusement Pierre savait, il avait sa Bible. Ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car c'est ainsi que cela a été écrit par l'intermédiaire du prophète, et toi Bethléem du pays de Juda, tu n'es certainement pas la ville la plus insignifiante parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira quelqu'un qui gouvernera et qui fera paître mon peuple Israël. Et c'est ça que finalement, vous imaginez Hérode quand il entend ça, il dit mais comment ça il va faire paître mon peuple? Mais ça va pas, c'est mon boulot, il va prendre ma place. Alors Hérode fit appeler secrètement les astrologues et s'informa exactement auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue, pour à peu près deviner quand est-ce que c'était arrivé. Les religieux savaient. Ils étaient censés informer les autorités et ils ne l'avaient pas fait. Et ils pouvaient toujours dire, mais il ne nous l'a pas demandé avant. On aurait pu lui dire. Mais regardez un détail qu'on oublie. C'était aussi connu du peuple. Le peuple savait. Jésus est en train de parler, on est dans ces gens qui expliquent. Dans Jean 7, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète !» D'autres disaient « C'est le Christ !» Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit pas que c'est la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir. Le peuple même le peuple, savait. Ha ! Les religieux savaient. Le peuple savait. Mais personne ne s'est intéressé à l'événement. La presse n'était pas là. Les médias n'étaient pas là. Pas de place. Mais j'ai marqué là, sain et sauf. Après le voyage long et fatigant de plusieurs jours, il cherche une place pour Marie, pour qu'elle puisse accoucher, mais pas de place. Et elle enfanta son premier fils. Elle l'emmena, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place. Comme il était dit ce matin par notre frère Jacques, Dieu avait tous les moyens, n'est-ce pas? C'est à lui que l'or et l'argent appartiennent. Il pouvait préparer une place pour son fils. Le faire naître, dans quelque chose de royal, avec des sièges en or. Non. Il a choisi l'humilité. Il a choisi, finalement, que ceux qui le cherchent le trouvent. Ceux qui l'ont trouvé sont les bergers et les mages. Ceux qui ont cru, qui sont allés vérifier. La paix, elle était en Jésus-Christ. Le monde était dans le chaos. La méchanceté augmentée. Le monde grec et tous ses dieux infiltraient les pensées. La paix était une rare commodité. La paix, elle était forcée. Elle était imposée. Elle était mise en place par les armes, l'esclavage. En fait, la seule paix qui se trouvait dans cet événement, c'était Jésus. Parce qu'il est notre paix. Il est le seul qui peut, dans les instants tellement difficiles, nous apporter le réconfort. Et l'image de tout à l'heure avec Joseph et Marie, ils n'ont pas oublié que dehors c'est la guerre, que personne ne veut d'eux, qu'on leur a fait faire des jours de marche. Et certainement, s'ils avaient été français, ils auraient râlé. N'est-ce pas ? Pourquoi on nous impose ça à nous ? Et pourquoi nous ? Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la guerre est dans beaucoup de pays, n'est-ce pas ? La persécution, la pauvreté, le racisme, le terrorisme, les divisions, les sectes. C'est Paul qui en parle dans le Galates, hein ? Et il appelle ça le fruit de la chair. Les œuvres de la chair, pardon. On n'est pas à une meilleure époque, mes amis. Mais dans l'Église, alors, tout va bien ? Non, dans l'Église, il y a aussi les divisions. Mais dans l'Église, il y a aussi les clans, les agressions verbales, les ruptures. Mais alors ? Alors, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là ? Que ça ne va pas dans le monde et ça ne va pas dans l'Église. Oui, parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas encore compris que la seule paix qu'on peut avoir, c'est Jésus-Christ. Et que la seule personne qui au monde peut nous réconcilier avec un frère fâché, c'est Jésus-Christ. Que le seul moyen de passer notre temps en paix, c'est d'affronter les épreuves avec lui. Alors, dans ce jour de Noël, si je veux terminer en me concentrant sur la personne de Jésus, non plus de Marie, non plus de Joseph, non plus des anges, non plus des bergers, non plus des rois mages, mais de Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Que Jésus est notre paix au milieu des chaos, de la guerre, des difficultés. Que Jésus est notre repos dans nos activités, dans notre agitation. Que Jésus est notre calme au milieu de la tempête et des tempêtes indémarquées. Qu'il est notre lumière dans l'obscurité ambiante. Qu'il est notre silence au milieu des cris. Qu'il est notre joie au milieu de nos peines. Qu'il est notre roc quand le sol se dérobe. Qu'il est notre force quand nous réalisons que nous sommes faibles. Qu'il est notre soutien quand ce que nous avons bâti s'écroule, qu'il est notre unité, quand règne la division. Et comme l'a dit le prophète, on l'a lu au début de ce culte, il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans ce jour magique, extraordinaire, le 25 décembre, est-ce que Jésus est bien ce Jésus que je viens de lire pour vous ? Ou est-ce qu'il est celui qui finalement gomme tout, nous enlève nos difficultés, nos chaos, nos divisions ? Quelle attente nous avons de ce Christ ? De celui qui est venu naître dans le refus, au milieu des ténèbres, dans un monde tellement en difficulté. Est-ce qu'il est notre unité ? Est-ce qu'il est notre soutien ? Est-ce qu'il est notre force ? Est-ce qu'il est notre roc ? Notre joie ? Notre silence ? Notre lumière ? notre calme, notre repos et enfin notre paix. On apprend aux enfants d'envoyer une lettre au Père Noël qui finalement devient notre Dieu. On fait croire l'existence d'un homme qui n'existe pas. Mais celui qui existe, on n'en parle jamais. C'est intéressant quand même. Mais si aujourd'hui, nous voulions lui demander quelque chose, est-ce que ça serait une de ces choses ? Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ton repos. Seigneur, donne-moi ton calme. Seigneur, donne-moi ta lumière. Seigneur, donne-moi ton silence, ta joie. Permets-moi de te savoir comme étant le roc. Et vous savez ce que Jésus nous dirait ? Ou même ce qu'il nous dit ? Eh bien, écoute, tu ne le mérites pas. Mais je te le donne. Parce que c'est pour ça que je suis venu naître, il y a 2000 ans. Pour te le donner, alors que tu ne le mérites pas. Pour te le donner alors que tu en as tellement besoin et que tu ne le vois pas. Et maintenant que tu le réalises, je veux bien te le donner. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour la célébration de ta naissance. Nous voudrions refaire l'histoire. Nous voudrions te mettre dans un hôtel 5 étoiles. Nous voudrions t'entourer d'anges, te garder et même t'empêcher de mourir, Seigneur. Ah oui, ah si j'avais été là, tu aurais vu, Seigneur. Je t'aurais défendu. Mais tu es venu naître dans une toute petite ville, dans l'ignorance. Tu es venu vivre comme nous, en étant tenté comme nous, en étant en difficulté comme nous, en ayant faim comme nous, en ayant soif comme nous, pour finalement mourir d'une façon atroce sur la croix, mais pour ressusciter. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun, chacune ici ce matin, et qui peut-être au travers de l'égrenage de ces titres qui ont été traduits ici, aurait peut-être besoin de ta paix, de ton repos, de ton calme, de ta lumière, de ta joie, de ta force, de ton soutien. Et que tous ensemble, nous ayons besoin d'unité. Alors si aujourd'hui quelqu'un se tourne vers toi et te demande ces choses, je te prie dans ta grâce de lui accorder. Que ce soit le plus beau cadeau qu'il reçoive aujourd'hui. Non pas au pied du sapin, mais au pied de la croix. Et dans la crèche à Bethléem. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin qui aimerait que je prie pour lui ? Pour elle, oui. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Dieu nous offre les plus beaux cadeaux, les plus belles choses. Celles qui ont un prix qui dépasse notre porte-monnaie, notre compte en banque. C'est le prix de sa vie. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle ? Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, merci pour ces personnes qui lèvent la main, qui ont besoin. Ce n'est pas un cadeau qu'ils vont mettre dans le placard. Ce n'est pas un cadeau qui va les valoriser. Mais c'est un cadeau qui va te valoriser, toi, dans leur vie. Et qui va changer leur vie. Alors sois béni, Seigneur, pour ces amis. Et permets que cette journée te glorifie et t'honore. Et que nous ayons de la joie. Au nom de Jésus. Amen.